Bonjour les amis sur BXFM, dans le doute on ne s'abstient pas, la preuve, émission qui marche bien avec notre ami Jérémy Thomas, avec des invités, aujourd'hui c'est Lubna Hasgood.
Voilà, oui, bonjour, aujourd'hui on reçoit Lubna, une sacrée personnalité dans le monde de l'entrepreneuriat qui mène un combat si essentiel, la place des femmes dans l'entrepreneuriat justement. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a fondé HiHer. Alors bonjour Lubna.
Bonjour Jérémy, bonjour Pierre.
HiHer.
HiHer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi d'abord et ensuite pourquoi HiHer?
Alors, moi, je suis, on va dire, bien implantée dans l'écosystème entrepreneurial à Bruxelles. Je suis entrepreneuse et aussi, j'ai fondé HiHer parce que, donc, qui est une plateforme inclusive pour soutenir les femmes entrepreneurs dans leur recherche de financement parce que l'accès au financement reste encore un frein important à l'entrepreneuriat féminin. Et donc, pour moi, c'était vraiment, je veux dire que l'entrepreneuriat féminin est vraiment au cœur, en tout cas, de ma mission de vie, je pense. En tout cas, sur ces 10 dernières années où j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Et ici, HiHer, c'était aussi voilà, un peu une finalité de pouvoir apporter une solution qui n'existait pas encore à Bruxelles.
Alors, on va y revenir justement sur la place de la femme dans l'entrepreneuriat, mais comme tout invité, je pose la question en premier lieu, c'est de quoi doutes-tu en ce moment?
Alors, j'ai beaucoup douté.
Ça l'a fait rire, déjà.
Il y en a l'autre qui pleure, mais...
Non, j'ai beaucoup douté parce que j'ai aussi un peu une réorientation de carrière ces derniers mois, mais j'ai beaucoup douté parce que c'était très dur justement de décider en fait, c'est ça qui est difficile, mais aujourd'hui je suis alignée donc ça va beaucoup mieux, mais finalement je me dis quand on est entrepreneur aussi on doute tout le temps et si on ne doute pas il faut aussi se poser des questions.
On est en danger quand on ne doute pas quelque part.
Exactement, je pense que moi j'ai un ami qui est philosophe.
Il s'appelle comment? Tu peux dire comment les amis, on peut dire ça.
Oui, bien
mais,
sûr.
Mais il est connu, hein, Rachid Benzine, philosophe français,
oui.
Qui écrit pas mal de livres. Et alors, il dit que le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais la certitude.
Voilà, c'est tout à fait. Quelqu'un qui vous dit que la vérité, moi je le fuis. Hein,
oui.
Et je pense que c'est important de pouvoir toujours se remettre en question et ne pas dire qu'on a la vérité infuse.
C'est impossible.
Voilà, non. Exactement. Et surtout quand on est entrepreneur, de pouvoir challenger ses idées, de pouvoir même challenger avec son équipe et de pouvoir vraiment échanger avec d'autres entrepreneurs peut-être aussi, parce que je pense qu'il n'y a personne qui a la vérité.
Mais du coup, quelle place tu donnes au doute dans ta vie professionnelle, au-delà de la vie personnelle, mais surtout dans la vie professionnelle, quel poids tu lui donnes et comment tu fais pour finalement combler tes doutes?
Alors, je pense que c'est en échangeant avec les autres. Je pense que j'ai beaucoup douté parce que j'ai une carrière aussi très atypique, hein, où j'ai beaucoup changé de métier, où j'ai, on va dire, il y a un fil rouge qui est l'impact sociétal. Mais voilà, je me suis toujours remis en question et j'ai toujours voulu avancer vers plus de bien commun, on va dire. Et le doute, pour moi, est primordial parce que finalement, c'est ce qui te permet d'avancer aussi. Et pour le challenger, c'est avec les autres. C'est toujours avec... On n'a pas l'expérience de tout le monde, donc c'est toujours en ayant peut-être un mentor, en ayant des personnes, en parlant avec des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que nous ou qui viennent peut-être d'autres cultures, d'autres horizons, par exemple, j'adore aller à l'étranger, aller voir les nouvelles solutions, comment ça se passe l'entrepreneuriat ailleurs, quels sont les nouveaux produits, les nouvelles manières de travailler, les nouvelles manières de fonctionner ensemble, et c'est comme ça qu'on s'enrichit.
On va s'enrichir avec de la musique, les amis, puis c'est le temps de faire une petite coupure musicale, et puis il faut qu'on tourne une page de pub. C'est quoi que tu écoutes, toi, comme musique?
Ah, moi, je suis pas à la mode du tout.
C'est Mireille Mathieu.
Non, pas à ce point-là, mais bon.
C'est quoi, alors?
Allez, plutôt, je sais pas, moi, jazz.
Il n'y a pas besoin d'être à la mode pour écouter du jazz.
Pour le jazz, il suffira de prendre l'ascenseur, on va écouter de la vraie musique, et on se retrouve avec Jérémy et Lubna Hasgood. On parle de doute. On a parlé de doute, on va reparler de doute et encore de doute.
Eh bien évidemment, parce que tu as récemment annoncé que tu te lançais en politique. Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire?
Alors, comme on a parlé du doute tout à l'heure, c'est là justement quand j'ai dit que ça faisait il y a quelques mois, j'ai beaucoup douté parce que c'était une opportunité pour moi de pouvoir mener justement les combats que je mène déjà pour l'entrepreneuriat féminin, pour les femmes, pour l'entrepreneuriat tout court, pour, on va dire, faire de Bruxelles une ville plus inclusive. Enfin voilà, tous les combats que j'avais dans la société civile et qui m'animaient, comme l'inclusion numérique aussi, un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. c'était pour moi, voilà, c'était l'occasion d'avoir une plateforme pour pouvoir peut-être ne pas mener mes projets, moi, toute seule, peut-être dans mon coin, même si j'avais un super écosystème autour de moi, mais de pouvoir justement porter ça au niveau politique, où je l'espère, je pourrais avoir des leviers plus importants pour vraiment changer les choses.
Et tu disais justement que tu as eu des doutes, hein, évidemment, c'est quand même un passage hein, de passer de l'entrepreneuriat vers la politique en ayant une mission qui t'habite. Et finalement, quel a été un peu le moment où tu t'es dit « Allez, c'est bon, maintenant, je me lance ».
Je pense que, après avoir réfléchi, donc j'ai beaucoup parlé, voilà ce que je disais, voilà, j'avais des doutes et donc j'avais beaucoup de questions et de doutes et donc j'ai beaucoup parlé avec des personnes mais qui étaient peut-être du milieu politique, mais pas que, d'autres entrepreneurs et puis après, voilà, il y a quelques grands noms.
Citer, voilà, je pense à Yvan Bruckstrap, je suis sûr.
Non, même pas. Non, c'est Sophie Wilmès. Ah ouais. Et donc, je pense que...
Donc, c'est un lapin blanc bleu.
Oui, voilà, exactement. Mais
je rappelle
qui
qu'un
a
lapin
été...
blanc, c'est le nouveau candidat qu'on sort d'un chapeau pour présenter. Donc, du côté du mouvement réformateur, très bien.
Tout à fait. Oui, mais écoute, voilà, et je pense être tout à fait... Et donc, voilà, elle a vraiment trouvé les mots pour répondre en tout cas à mes questions et aux derniers doutes qui m'habitaient. Et puis ça c'est finalement, je me suis dit, mais je suis tellement alignée, c'est tellement naturel au fait. C'est parce qu'au fait, j'avais des doutes. À un moment, il y a le cœur et la raison.
Ouais.
Et mon cœur me disait vas-y, et ma raison me disait non. Tout ce que tu as construit.
T'es en train de nous dire qu'il nous faut une Sophie Wilmès dans notre vie, en fait. Tu vois, un petit peu lié les deux.
On le sait, hein, politique, c'est d'avoir un peu de pot de crocodile aussi. Hein, donc, il faut être costaud parce qu'on en prend tous les partout. Voilà.
Et du coup, ça me fait penser, parce que tu as évidemment une carrière entrepreneuriale, est-ce que la politique et l'entrepreneuriat pourraient être un jour connaître un mariage heureux ou vaudrait mieux déjà anticiper le contrat de divorce?
Écoute, moi j'espère que ce mariage... heureux arrivera parce que je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir changer aussi le monde politique et que le monde politique, malheureusement, ne fait plus rêver.
Non.
Et qu'il faut pouvoir justement avoir beaucoup plus d'entrepreneurs, beaucoup plus aussi de personnes qui ne pensent pas avoir un CDI en politique. Mais voilà, on peut très naturellement, il y a d'autres entrepreneurs aussi aujourd'hui en politique.
Life, hein,
oui, voilà, oui, c'est ça, malheureusement. Mais de pouvoir, parce qu'à un moment, il faut pouvoir apporter quelque chose. Aujourd'hui, j'ai un combat à apporter en politique. Après, il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres entrepreneurs qui ont des choses à apporter. Et je pense que voilà, et que notre avantage comme entrepreneur, c'est qu'on peut y rentrer, y ressortir. Moi, j'ai pas peur aujourd'hui. Je me dis, ça marche, tant mieux, je pourrais faire des choses, ça ne marche pas, je continuerai à faire ce que je fais dans la société civile.
Bon, musique, les amis. Alors, en politique, il faut des burnes quand on va aux urnes, comme on dit. Voilà, petit jeu de mots idiot.
Complètement.
Mais simplement, je rappelle, 9 juin, vous votez qui vous voulez, mais votez surtout parce que c'est ça qui est important.
Exactement.
Aussi.
Exactement.
On va bien. C'est déjà la dernière partie, Lumna, on passerait des heures ensemble.
Bien sûr.
Tu reviendras, c'est clair. Jérémy, on continue, évidemment.
Moi, je vais parler d'un truc qui nous tient à cœur, évidemment, c'est le syndrome du doute permanent. On l'appelle aussi syndrome de l'imposteur et désigne cette impression de ne pas se penser suffisamment à la hauteur, de douter de soi en permanence, un sentiment qui toucherait plus particulièrement les femmes que les hommes, un ressenti qui serait essentiellement nourri par les stéréotypes de genre depuis l'enfance. Est-ce que tu confirmes ce ressenti?
Alors oui, bien sûr. Je pense que y a différentes études qui prouvent que les femmes sont plus sujettes au syndrome de l'imposteur que les hommes, parce que je pense que la société nous renvoie aussi une certaine image de la femme et qui doit être dans une case. Hein, si on est en dehors de la case, on n'est pas ça ne va pas. Et puis après on a beaucoup aussi peut-être plus de difficultés à se mettre à une table de décision et donc le syndrome de l'imposteur, je pense qu'il existe. Alors si il a existé chez moi, je pense que oui, et que c'est peut-être normal parce que j'ai aussi la même éducation que la plupart des femmes en Belgique, et donc oui, je pense avoir aussi, c'est toujours difficile, il y a le syndrome de l'imposteur et il y a la légitimité.
Oui,
aussi,
bien sûr.
Et la légitimité, c'est toujours, ça, en tout cas par rapport à mon parcours personnel, bon, moi je viens d'une famille d'ouvriers, d'un quartier à Bruxelles, j'ai un autre parcours, j'ai arrêté l'école à 15 ans, j'ai repris après j'ai, ma mère m'a supplié pour avoir mon CESS, je l'ai eu, j'ai été travailler à 18 ans, je n'ai repris les études qu'à 21 ans.
Ouais.
Et donc, et puis après je n'ai jamais eu de cesse d'étudier parce que j'ai un bac plus 8 et voilà, mais parce que je ne me sentais pas légitime, parce qu'on m'avait dit que ça n'allait pas aller, je pensais que ça n'allait pas aller et finalement je me suis ressortie avec 2 masters quoi.
Justement, par rapport à l'époque, cette époque-là dont tu parles, et aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'on va dans la bonne direction, quelque part, pour laisser évidemment une place légitime, justement, aux femmes dans l'entrepreneuriat, malgré qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot? Est-ce que tu penses qu'on va dans la bonne direction?
Alors aujourd'hui, heureusement, il y a des belles initiatives, il y a des choses qui changent. Quand moi, j'ai commencé il y a 10 ans et quand même, j'ai créé Women in Tech en 2016, c'était un monde, quoi. Personne ne parlait de ça, j'avais l'impression d'être un extraterrestre. Aujourd'hui, on ne peut plus, aujourd'hui, on ne peut plus faire autrement. Et donc, aujourd'hui, je pense que les choses changent. Il y a de plus en plus, d'ailleurs, d'entrepreneuses qui entreprennent à Bruxelles plus que les hommes. Alors, c'est 1% de différence, mais ça veut dire qu'il y a un vrai mouvement, en tout cas chez les starters, au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Maintenant, il faut pouvoir le pérenniser, il faut pouvoir lever les freins qui existent et surtout donner les outils pour pouvoir réussir. Je pense que le rôle du politique est aussi de créer un environnement propice et favorable à l'initiative entrepreneuriale.
Dernière petite question, puis on devra se quitter. On apprend
Justement, ça me fait penser à une phrase de Simone Veil qui disait « Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte et que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. » Je crois qu'on est un peu tous d'accord avec ça, non ?
Tout à fait.
Et du coup, comment tu vois finalement l'avenir des femmes dans l'entrepreneuriat sur, on va dire, les 5 à 10 ans à venir ? C'est un peu la dernière question aujourd'hui. Après, on conclura malheureusement parce que c'est un sujet qu'on pourrait évoquer pendant des heures et des heures, évidemment. Mais on fera encore une suite par rapport à tout ça, évidemment, parce qu'il y a encore du chemin.
Mais je pense, je suis confiante. Je suis confiante parce que, bon, moi, j'ai aussi, dans Higher, un programme de formation avec différentes femmes. Et quand je vois la force de ces femmes et même des femmes qui sont seules avec des enfants, enfin, voilà, avec des conditions peut-être de vie aussi très difficiles, elles ont vraiment la rage de réussir, la rage de créer quelque chose, d'apporter quelque chose à la société et je trouve ça très beau et moi je suis confiante en l'avenir et j'ai confiance en les femmes.
Oui, bravo.
Merci Loupna.
Loupna est une entrepreneuse, mais quand c'est extraterrestre, c'est un extraterrestre. Donc voilà.
Voilà.
On savait que les gens n'avaient pas de sexe, mais les extraterrestres non plus.
Bah justement, voilà, tu viens de donner une petite transition intéressante à l'immense citation de Gandhi qui disait « Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. »
Et ben voilà, on s'en sort, Gandhi.
Merci,
on s'en sort, Gandhi.
Merci à vous, merci beaucoup.